sur les docks. Irène Emelianenko, bonjour Irène.
Bonjour Hervé Gardette.
Au programme aujourd'hui.
Eh bien, la fonction du secret dans la justice va être notre objet documentaire. Catherine Escrive avec Assia Ralid remonte le fil du procès des époux Fourniret. Or, pour mémoire, celui qu'on a appelé le monstre des Ardennes, Michel Fourniret, avait violé et tué en série des jeunes femmes en Belgique et en France. Ayant avoué 9 meurtres, dont celui d'une enfant de 12 ans, il comparait en 2008 devant la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières.
Et ce, en compagnie de sa femme, Monique Olivier, accusée de complicité de non-dénonciation.
Oui, Hervé, lors de l'audience, quand le secret est délié, bien sûr, les familles attendent beaucoup de ce que peut révéler l'accusé. Dans le cas des époux Fourniret, lors du procès, se sont succédés silences, aveux, mensonges, révélations. Des magistrats experts et le président de l'association d'aide aux parents d'enfants victimes ont bien voulu revivre ces moments où manipulation et secret ont joué un ballet inquiétant.
Il faut bien avoir présent à l'esprit, et c'est peut-être un paradoxe de l'institution judiciaire, qu'il y a deux périodes. Il y a une période du secret, puis ensuite il y a une période de l'audience publique. La première phase, c'est celle effectivement de l'enquête qui est menée par la police tout d'abord, puis ensuite sous l'autorité éventuellement du procureur ou d'un juge d'instruction, et toute cette période est couverte par le secret. Alors c'est prévu par un texte, l'article 11 du Code de procédure pénale, et à ce secret sont tenus tous ceux qui vont participer, concourir à cette phase, c'est-à-dire de la préparation de ce qui pourra ensuite être révélé dans le cadre effectivement de l'oralité des débats devant la cour d'assises.
Le chroniqueur judiciaire stricto sensu n'est jamais confronté au problème du secret. L'audience, par définition, est publique et fonctionne sur le principe de l'oralité. Donc tout ce qui est dit à l'audience peut être dit, répété. On a même la loi nous garantit une très très grande liberté de propos pour peu qu'on soit de bonne foi. On peut vraiment aller loin dans le récit.
D'une manière générale, l'expert est délié du secret médical pour les questions qui lui sont posées. En psychiatrie, c'est beaucoup plus compliqué. Dans quelle mesure une confidence doit être restituée, si elle ne concerne pas directement les questions posées, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'on doit répondre à la mission, rien qu'à la mission.
Sur les docks. Justice pénale, le sens du secret. Un documentaire de Catherine Escrive et Assia Ralid. Victimes, accusés, magistrats, avocats, jurés, chroniqueurs judiciaires, lors d'un procès d'assises, tous ces protagonistes révèlent ou entendent des secrets. Le temps du procès est le temps où la parole peut enfin se libérer. Le mécanisme sophistiqué de la justice pénale permet aux juges et aux jurés de progresser dans ce labyrinthe des secrets, dans un seul but, la recherche de la vérité. Au printemps 2008, le procès des époux Fourniret s'est tenu pendant 10 semaines devant la cour d'assises des Ardennes. Ultra médiatisé, l'événement a réuni 400 journalistes à Charleville-Mézières. Témoignages, aveux, silence, révélations, rétention d'informations, tant de secrets s'y sont joués, tant de mots sont venus résonner dans l'espace public. 8 ans après, certains protagonistes reviennent sur ce procès qui nous en dit beaucoup sur la place de la parole dans la justice pénale. Écoutons maintenant ce que nous murmurent tous ces secrets.
Les assises, c'est un modèle de fonctionnement de la justice exceptionnel.
Pierre Blocot, avocat.
On peut tout dire, le président peut tout faire, il peut décider de faire venir qui il veut. Au cours du procès, un truc qui s'était pas révélé à l'information, parce qu'un témoin change d'avis. On dit, ben, il y avait un tel. Le président peut dire, bon ben allez, faites-le venir. Il n'y a aucune autre juridiction où c'est possible.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on passe du secret de l'enquête et de l'instruction.
Gilles Latapie.
Ensuite à la publicité, à la transparence devant la cour d'assises, dans l'oralité des débats. On a cet éclairage qui est progressif, puisque c'est un peu par touche quand on a un procès sur plusieurs jours. Il faut avoir assisté à l'ensemble pour pouvoir véritablement se forger son opinion.
Fourniret, on le savait et on l'a vu, est extrêmement manipulateur. Il fait beaucoup de spectacles.
Alain Boulet, président de l'APEV, aide aux parents d'enfants victimes.
Il avait fait des lettres, il avait fait un tas de choses, il voulait pas venir. Le président est allé le chercher, je dirais, entre guillemets, presque de force, pour dire maintenant, vous assistez. Bon, il a été présent après tout le temps. Les victimes ont essayé, puisqu'il y a eu une journée ou deux par victime et pour les parents sur leur affaire, les parents essayaient de comprendre pourquoi ils faisaient ça, essayaient même de s'adresser à Fourniret. Et j'ai l'impression que Fourniret a joué au chat et la souris avec eux. Et il les a manipulés complètement, ils n'ont jamais eu les réponses. Alors c'est pas tellement autant des secrets, c'était pas de savoir comment leur enfant avait été tué, c'était pas ces détails techniques, mais c'était pourquoi faire ça, qu'est-ce qui le motivait.
On attend souvent du mise en examen qu'il livre à la barre les raisons profondes de ses actes.
Daniel Zaguri, psychiatre.
Dans l'immense majorité des cas, ça n'est pas possible parce que le sujet n'est pas en mesure de le faire. Donc il y a une attente excessive et dans le cas de Fourniret, alors là c'est l'illustration la plus extraordinaire, je dirais, de l'inanité de cette espèce d'attente médiatique qu'enfin la parole se libère, qu'enfin les victimes puissent entamer leur deuil. Dans le procès Fourniret, il y a eu un premier temps qui était un temps de silence obstiné de sa part, avec cette attente croissante, va-t-il parler, va-t-il enfin dire. Et quand il s'est mis à parler, à ce moment-là, ça a été terrifiant. Il a dit ce qu'il avait fait, il l'a dit avec une perversité inouïe, une cruauté pour nous, sans nom. Et si dans un premier temps, on lui a dit « parlez, parlez, parlez », dans un deuxième temps, on lui a dit « taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous ».
Un fait divers sordide en Belgique et c'est une enquête à tiroir qui démarre.
L'arrestation d'un homme la semaine dernière en Belgique va peut-être relancer l'enquête sur les disparitions et les meurtres de jeunes Ardennaises retrouvées mortes en 2001 et 2002. Un individu a été interpellé alors qu'il avait enlevé une adolescente.
Depuis juin 2003, date de son arrestation en Belgique, le sexagénaire avait toujours nié la moindre implication dans un meurtre.
Sa femme l'a accusé d'être l'auteur de 9 assassinats de fillettes ou d'adolescentes.
Leur histoire, c'est celle d'un pacte. Elle s'engage à l'aider à trouver des vierges en échange. Il promet de tuer son premier mari.
Nous avons des accusations qui sont tout à fait précises, et de la part de l'épouse, et des aveux. Ce matin, en fin de matinée, M. Fourniret a fait des aveux.
On a découvert à l'occasion de ce procès, finalement, les pratiques de la police et de la justice belge. Et en particulier, il y avait déjà cette pratique tout à fait habituelle pour eux, des gardes à vue filmés.
C'est-à-dire que si ça avait été des enquêteurs français, ils n'auraient pas eu l'opportunité d'interroger aussi souvent à 120 reprises.
Monique Olivier, la police l'avait convoqué combien ? 120 fois. Pour aboutir à mettre une caméra ou à enregistrer la... Ils ont sonorisé le parloir familial, quoi, le parloir... Ils ont sonorisé et c'est là où...
Ah bah, c'est-à-dire c'est elle qui a permis la mise en place de l'ensemble de la procédure, puisque la situation était la suivante. Il est arrêté, je crois, en juin 2003. Il est incarcéré et puis il se passe quasiment un an et on est à quelques jours d'être obligé de le libérer parce que on n'a pas grand-chose contre lui en Belgique. On a finalement une tentative d'agression sexuelle sur la petite Marie. Bon, elle a réussi à s'en sortir, donc il va passer devant une juridiction correctionnelle, enfin bon, voilà, et avoir une peine peu importante. C'est véritablement l'opiniâtreté, on peut dire, des enquêteurs belges, de commissaire Fagnat et de Monsieur Brasseur, enfin, et ses collègues qui ont poussé Monique Olivier à à parler. Et quand elle a commencé à parler, elle en a dit de plus en plus. Et ensuite, ça a été confirmé par Fourniret.
Nous, en France, il y a un interrogatoire de quelqu'un qui est soupçonné de faire un crime. Et dès le moment où il est mis en examen, les policiers ne peuvent plus avoir accès. C'est le juge d'instruction qui interroge. En Belgique, les policiers peuvent l'interroger encore pendant jusqu'au procès. Et tous les interrogatoires sont enregistrés. Et donc, on a eu passé pendant le procès beaucoup d'interrogateurs. Comme Fourniret ne parlait pas, on a pris ces bandes magnétiques qui ont été visionnées. Et c'est là où c'était quand même assez... assez dur et assez étonnant d'entendre Fourniret qui passe aux aveux, qui raconte ce qui s'est passé. Parce que dès le moment où il a accepté de dire « oui, j'ai tué telle jeune fille », il racontait. Est-ce que c'était pour, encore une fois, son ego pour se mettre en avant ou autre? Mais il racontait. Et bien sûr, ces paroles-là étaient terribles.
Alors c'était un procès particulier d'abord parce que, en général, les tueurs en série sont tout seuls.
Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire.
Là, c'était un couple. Il y avait une femme qui a joué un rôle extrêmement actif dans une partie des crimes de son mari. Donc déjà, c'était une situation un peu singulière. Et puis, Fourniret est un criminel très, très, très particulier. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'essayer d'asseoir une forme de domination sur son auditoire, les gens qui sont avec lui. Et il a essayé de faire ça pendant son procès. Ce qui était totalement insupportable. Il a fait notamment un chantage à la parole en permanence. Je vais parler, je vais pas parler. Ah oui, alors il fallait le supplier qu'il parle. Enfin, c'est un jeu extrêmement pénible. Et puis, en plus, lui, quand il s'est mis à parler, il se souvenait extrêmement bien de tout ce qu'il avait fait et ça lui déplaisait pas de le raconter. Et c'était absolument horrible. En fait, les criminels, on veut qu'ils racontent. En fait, on aurait mieux qu'ils se taisent dans certains cas.
France Inter, 27 mars 2008.
Michel Fourniret se lève à la demande du président. Quels sont vos noms, prénoms et dates de naissance, monsieur ? Fourniret reste muet, puis présente au président, derrière la vitre de son box, une affichette avec quelques mots inscrits. Le président, ah là, vous jouez un petit peu avec mon dernier contrôle ophtalmo, monsieur Fourniret. Vous avez donc écrit quelque chose. Alors, je lis 108 clos, bouche cousue.
La demande de huis clos, je l'ai soutenue. J'ai soutenu, en fait, une demande de huis clos partiel. Pour moi, ça aurait pu être l'occasion de le mettre en face de ses contradictions, en disant, vous nous dites que vous allez parler si c'est à huis clos, alors nous sommes à huis clos, qu'avez-vous à nous dire? S'il n'y a rien. Et si j'ai peut-être un seul regret, c'est que ça n'ait pas été tenté.
J'ai rappelé, moi, simplement que le huis clos pouvait être demandé par les victimes, et en particulier les victimes de viol. Enfin, l'article qui est à l'heure de droit, l'article 306, alinéa 3 du Code de procédure pénale. Et donc, on avait là un renversement, en fait, des règles de la part d'initiative de Michel Fourniret par rapport au fait que ce n'est pas à l'accusé de demander le huis clos. La publicité des débats, c'est le principe même de la cour d'assises. C'est, je dirais que c'est vieux comme la cour d'assises, puisque c'était les révolutionnaires qui l'avaient instauré, je veux dire, il y a plus de deux siècles. Et lorsqu'il y a un procès à huis clos, vous finissez par avoir finalement deux audiences. Une audience à l'intérieur devant la cour d'assises, et puis tous les bruits, tous les bruits sont possibles. Et puis ensuite, vous avez quasiment une autre audience qui se tient devant les caméras, dans la salle commune du palais de justice ou juste à l'extérieur du palais de justice. Je pense qu'il est préférable d'avoir directement le débat devant, évidemment, le public, mais également la presse qui représente le public.
Fourniret fait alors passer au président un rouleau de papier entouré d'un ruban rose comme un parchemin et il prend brièvement la parole, il ne peut pas s'en empêcher en fait. Il s'agit, monsieur le président, de l'exposé que j'avais l'intention de lire aux familles des victimes. Je vous demande de le lire, vous. Le président manipule le rouleau enrubanné entre deux doigts, il le montre à la salle et il dit avec humour, mais c'est très joli ça, monsieur Fourniret, j'en prendrai connaissance. Fin du premier round.
Il y avait effectivement une lutte de pouvoir qui s'est manifestée dès le début de l'audience et qui a été vite réglée. Gilles Latapy prend le parchemin et dit « Ah, c'est joliment fait !» et le pose, et ne l'ouvre pas, et ne le lit pas. Mais ça, c'était le premier contact qui a déjà donné la tonalité du procès. Je pense que si vous aviez ouvert à ce moment-là le parchemin et si vous aviez lu la déclaration de Fourniret, les choses auraient été plus délicates à diriger après. À cet instant précis, c'est quelque chose d'important qui s'est joué et le procès a duré 2 mois.
Qu'est-ce que vous avez signifié là, publiquement ?
C'était une réaction spontanée, presque, je dirais, instinctive de ne pas accepter finalement que ce soit lui qui dicte le programme, quoi, en fait, hein, qui fixe les choses.
Fourniret ne connaît que 2 postures, la posture du dominant et la posture du dominé, de l'écrasé. C'est son monde, c'est son univers, c'est un univers entièrement marqué par la perversité. Nous ne sommes pas contraints de nous y soumettre. Fourniret a une carrière criminelle d'une 40aine d'années. Il a donc eu le temps de se forger une carapace dans la perversité absolument inouïe et une capacité à légitimer et à évoquer ces crimes que les autres tueurs en série français n'ont pas. Guy Georges ou Patrice Allègre murmuraient quelques bribes de phrases. Pierre Chanal s'est suicidé au premier jour de son procès pour ne pas avoir à révéler cette part cachée, son Mr. Hyde. Ils ont honte d'avoir été appréhendés et ils ont honte d'avoir à révéler dans l'espace public ce qui correspond à quelque chose d'extrêmement caché au fond d'eux-mêmes, de clivé. Alors ça, on ne le retrouve pas chez Fourniret. Fourniret, il sait qu'il est un monstre pour les autres. Il est capable de le théoriser. Il dit « Je sais que quand je me regarde de l'extérieur et quand vous me regardez de l'extérieur, vous me voyez comme un monstre. Et ça, je peux le comprendre. Mais moi, quand je me regarde, je trouve que je suis le type le plus formidable que la Terre ait jamais porté. Enfin, en gros, en substance. »
J'avais déjà entendu la lecture de l'acte d'accusation dans beaucoup d'autres procès, mais cette fois-ci, c'est vrai que c'était extrêmement difficile à entendre. D'abord parce que c'est très long. Tous les cas sont passés les uns après les autres, avec des détails, je dirais franchement, sordides. Et on s'est même posé la question, à quoi ça sert ? Parce que les victimes ont été extrêmement choquées d'entendre, en 1 quart d'heure, 20 minutes, résumer tout ce que leur enfant avait vécu, avec encore une fois des détails très crus, très sordides, comme la justice ou un rapport d'expertise médicale peut le donner, c'était donné comme ça en pâture à tout le monde. Sachant que ensuite, pendant tout le procès, on revient sur chaque point pour que chaque expert puisse venir discuter, mais peut-être avec ses mots et de façon moins crue. Mais je pense que c'est notre procédure pénale qui est comme ça. Vous savez, cette organisation, elle date quasiment de la Révolution. Il serait peut-être temps d'y réfléchir un peu autrement. En France, le procès est purement oral. Donc on a l'impression qu'il faut tout dire pour pouvoir accuser l'individu, et puis tout dire pour pouvoir aussi peut-être lui trouver des circonstances atténuantes, même si ce mot n'existe plus, tout dire parce que les jurés, eux, ne connaissent rien au dossier. C'est peut-être là aussi qu'il y a une réflexion à mener, parce que à quoi sert cet étalage qui, à mon avis, peut tourner un peu à l'exhibitionnisme.
Cette ordonnance de mise en accusation, elle faisait de l'ordre de 120 pages, je crois. Donc elle était longue à lire. Et donc j'ai choisi de marquer une pause entre chacune des lectures concernant chacune des victimes, de manière à donner une espèce de temps de respiration aux jurés, aux magistrats, mais surtout, et bien sûr, aux familles, mais aussi aux gens qui étaient dans la salle.
Moi, je crois qu'on peut tout dire, mais que c'est la façon de le dire et le respect de ceux à qui on le dit, qui compte. Il y a effectivement un certain tact à préserver, mais il ne faut pas que ce souci prenne le pas sur tout et nous contraigne à nous censurer. Il faut dire tout ce que l'on sait, mais qu'il faut le dire d'une manière qui soit audible, qui soit compréhensible. Je dirais pas qu'il soit supportable, parce que tout est insupportable pour les victimes, mais qu'on puisse participer à l'œuvre d'émergence de la vérité qui est le procès pénal.
Pour le chroniqueur judiciaire, le but, c'est de raconter le procès en tant que machinerie judiciaire, vraiment technique, et l'histoire elle-même. L'expérience montre que pour raconter l'horreur notamment, en général, c'est pas les détails horribles qui rendent l'horreur. Je pense qu'il y a des petits détails qui ne sont en général pas liés au massacre lui-même directement, c'est-à-dire vous voyez, les flaques de sang, les plaies béantes. Sur un procès comme celui de Fourniret, on est tout le temps confronté à un choix permanent, je le dis pas. D'abord, moi, je ne suis pas très porté ni sur le pathos, ni sur le gore. Et puis, c'est beaucoup plus en plus intéressant d'un point de vue strictement intellectuel et même littéraire, d'essayer de rendre un climat, parce que c'est ça un procès d'assises, à chaque fois c'est un climat différent, une ambiance, en choisissant des mots, de parler plus à l'intelligence du lecteur qu'à ses tripes, quoi.
Souhaite la bienvenue au bord de ce train à destination de Charleville-Mézières. Je reste à votre disposition et je vous souhaite un agréable voyage.
Nous sommes sur l'esplanade du palais de justice, qui est une construction des années 60 et qui a été conçue pour être en bâtiment transparent.
Au moment du procès Fourniret, il y avait une telle affluence de journalistes.
Alors, il y avait surtout un barnum qui avait été installé sur l'esplanade, avec un grand écran de télévision qui retransmettait en direct les débats.
Donc, cette salle se trouve juste en face là, de l'entrée. Et de chaque côté, il y a le même couloir. Et à gauche, donc, c'était réservé pour les parties civiles. Et ils avaient leur salle de réunion, on peut dire privatisée, qui se trouvait dans cette partie-là. Et de l'autre côté, c'était la défense qui passait de l'autre côté.
Se sont rencontrés en prison, vont-ils y retourner ensemble? 10h ce matin, Charleville-Mézières, un homme et une femme dans le box de la cour d'assises.
Lui doit répondre de 7 meurtres de jeunes femmes et adolescentes, elle d'un meurtre et de complicité dans plusieurs autres dossiers. Tous les deux en cours la perpétuité, leur procès va durer 2 mois.
À l'époque, donc, le jury est composé de 9 jurés et 3 magistrats. Que demande-t-on aux jurés vis-à-vis du secret, en règle générale, à l'ouverture d'un procès?
Je vais vous lire le serment. Ça, c'est le début du procès. Lorsqu'on a procédé au tirage au sort des jurés, avant que le procès ne débute réellement, on va donc faire prêter serment aux jurés. Voilà, le président adresse aux jurés debout et découvert le discours suivant. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent, que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions.
à quel moment vous savez que vous êtes désigné, puisque si je ne me trompe pas, vous êtes commis d'office par le président, c'est ça? À quel moment vous... Par le bâtonnier?
Moi, je vous ai commis d'office aussi.
À l'audience, parce qu'il ne voulait pas être défendu.
Mais même avant...
Alors, à l'instruction, on avait...
Oui. Il y avait la problématique... On avait des craintes quand même sérieuses, tout d'abord sur sa présence, oui. Hein, puisqu'il ne voulait pas venir. Premier contact que j'ai eu avec lui, par écrit, il manifestait à 96,8% le fait qu'il ne viendrait pas. Bon, c'était pas 100%, mais voilà. Et ensuite, le fait qu'il ne parle pas.
C'est ça.
Alors, je vous ai commis d'office de manière à bloquer, si vous voulez, une tentative d'interruption du procès dès le premier jour. Par la désignation, vous voyez, de tel ou tel avocat, quelle que soit sa qualité, qui interviendrait le premier jour, dirait « mais je ne connais pas le dossier qui représente plus de 100 tomes, il me faut 6 mois ou 1 an ». Voilà. Et donc on aurait été obligé à ce moment-là de renvoyer le procès, vous voyez, alors qu'on avait déjà engagé des sommes très importantes, l'allocation des chapiteaux... On avait la présence en permanence d'une demi-compagnie de Cérès. Bon, ben ça coûte.
Ah, vous ne voulez donc pas parler? Eh bien alors, je vais énoncer moi-même votre état civil. Fourniret fait oui de la tête. Le président tente une autre question. Pouvez-vous nous dire quel sera votre mode de défense? Fourniret fait non de la tête et remontre la fichette. Sans huis clos, bouche cousue. Le président s'adresse alors aux 3 avocats de l'accusé. Allez-vous assurer sa défense? On sait qu'il les a désavoués, qu'il les a récusés, mais ils répondent « Nous sommes là parce que c'est notre devoir, nous sommes commis d'office et nous serons à l'audience. »
Pour autant que ma mémoire soit fidèle, je vais te désigner, je dis « C'est tout, c'est une désignation, mais je ne veux pas être tout seul. » Ne serait-ce que pour répartir la lourdeur de l'audience, la tâche, et surtout pour diminuer, autant que faire se peut, le risque d'être manipulé. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on est plus malin que les autres, et il y a un risque d'être manipulé par quelqu'un comme Fourniret. Ce risque à 3 n'existe pas.
Sur l'une des étagères de votre bureau, il y a un dossier un peu différent des autres, avec une couverture en cuir.
C'est ça, c'est en fait la seule chose que j'ai conservée de cette époque. C'est les petits mots... que M. Fourniret me passait au fil de l'audience. Alors j'ai annoté ça avec j'ai précisé les dates et j'ai mis à l'intérieur d'une cote ces petits mots, ses appréciations sur mon confrère Didier Seban, alias le wagon. Tiens, voilà le wagon qui réplique. Pauvre wagon, à défaut d'être activé par une intelligence en éveil, il est mu par la force d'inertie de son idée fixe. Il y a des dessins, il y a des croquis. Il me toquait sur le haut du crâne avec un crayon et me passait des petits mots, ce qui avait le don de m'énerver, mais je les ai conservés. Alors ça, par exemple, c'est la journée du 30 avril 2008 où il avait été particulièrement prolixe.
Et vous étiez 3 avocats, hein, c'est bien ça?
Oui.
Et c'était à vous que ces petits mots s'adressaient particulièrement?
Oui. J'étais le plus, pas de beaucoup, mais j'étais le plus ancien. Et Fourniret disait qu'il y a le colonel, le lieutenant et le sergent, ce qui était, on sait, bien évidemment, mes pauvres confrères n'y étaient pour rien, mais c'était sa hiérarchie.
Oui,
et effectivement, j'étais le seul à prendre la parole, d'ailleurs, de façon très brève, hein, puisqu'il ne voulait pas être défendu.
Ça signifie que vous ne pouviez pas élaborer de stratégie de défense avec lui? Y avait-il... des confidences, un échange, des secrets qu'il aurait pu avoir délivrés à son avocat? Et à ce compte-là, par quoi étiez-vous tenu par rapport à ces secrets qui auraient pu vous être confiés?
Le propre du secret, c'est de le rester. Si donc Fourniret m'avait dit quoi que ce soit, je n'en aurais pas parlé. Et j'aurais peut-être essayé de l'amener, comme on a essayé de le faire au cours du procès, de l'amener à dire quelque chose. Moi, j'ai conçu le rôle de la défense dans ce cas-là comme une espèce d'auxiliaire de justice, c'est-à-dire un facilitateur dans ce contexte très, très particulier pour peut-être amener Fourniret a parlé, ce qui d'ailleurs n'était pas certainement pas contraire à ses intérêts, d'expliquer. On sache un peu qui il est, parce qu'on est ressorti de là, moi, une frustration terrible. Je me souviens de la comparution de sa fille. Il m'avait dit, si ma fille m'autorise à parler, je parlerai. Je demande donc une suspension d'audience au président qui me l'accorde, bien évidemment, et je téléphone à sa Anne, sa fille. Et sa fille est venue témoigner, et Fourniret n'a rien dit.
Si, il y a eu un basculement quand même, qui a fait long feu après. Mais c'est-à-dire que là, on est le 7 mai au soir, Anne Fourniret vient déposer, et là, il a sombré. Alors, enfin, il a pleuré, d'abord, Fourniret, pour la première fois. Il a manifesté des émotions fortes. Et là, il a dit, je vais parler puisque ma fille m'y autorise. Donc, j'ai réorganisé donc des audiences supplémentaires pour permettre justement aux uns et aux autres de poser des questions, mais pas de recommencer le procès, parce que ça n'avait pas de sens non plus. Bon. Et il s'est exprimé au moins pendant une journée ou deux journées. Et puis, il y a eu cet incident lors de l'interrogatoire de Maître Seban. Il y avait un rapport difficile entre Maître Seban, et qui était l'avocat de l'une des victimes. Et puis, il y a eu, à la fin, Fourniret l'a traité, enfin, je ne sais quelle expression. Et ça a été repris par l'avocat général, enfin, qui s'est opposé à ce moment-là au débordement verbaux de Michel Fourniret. Et à ce moment-là, Michel Fourniret a dit « bon, bah, j'arrête ». Voilà, je ferme le rideau.
J'ai gardé en tête l'expression « je ferme le rideau ».
Aux Assises des Ardennes, Michel Fourniret est brutalement revenu aujourd'hui sur sa décision de s'exprimer. L'avocat général venait de lui ordonner avec fermeté de surveiller son langage. En signe de protestation, les familles des victimes ont déserté les bancs des parties civiles pendant plus d'une heure.
Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire au Figaro.
Dans un premier temps, il ne disait rien. Mais en même temps, la tentation était trop forte. C'est un type quand même assez, assez mégalomane, hein, très content de lui, Fourniret. Donc dans un premier temps, il n'a rien dit. Et puis dans un deuxième temps, il a quand même eu très envie de parler. Donc il a commencé à raconter et arrive au milieu de son périple criminel. Il dit non, mais finalement, je ne dis plus rien. Ce qui était aussi une façon pour lui de créer une très grande frustration parmi les parties civiles. Et c'était une façon aussi, évidemment, de créer une ambiance absolument délétère. Moi, je pense que pour les familles, l'important, c'est de se réapproprier les derniers instants de la victime, dont seul le criminel peut donner le récit. C'est-à-dire que le vol ultime du criminel, c'est de shipper aux proches le moment où leur fille, sœur, compagne meurt. Dans ce procès, il y a eu un événement assez marquant, c'est que les parties civiles étaient extrêmement soudées entre elles. Et il avait été mis à leur disposition un local, il y avait des psychologues qui pouvaient les aider, et c'était pas injustifié, parce que face à Fourniret, c'était vraiment très très pénible, quoi. Vous savez, c'est la craie qui crisse sur le tableau, quoi, en permanence, c'est insupportable, quoi. Est-ce qu'il va parler, est-ce qu'il va pas parler, est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais pas savoir. Et en plus, il avait aussi des moments où il était extrêmement agressif avec les avocats de la partie civile. Donc je pense que pour les proches des victimes, c'était horripilant. Donc il y avait ces moments de pause, et le président, Latapy, savait très bien gérer son audience, vraiment, du point de vue de timing, et ordonner des suspensions pour que tout le monde puisse...
Si vous voulez, je pense qu'on peut prendre l'exemple de dire que
Gilles Latapy,
une cour d'assises, c'est un petit peu comme une scène d'un spectacle dans laquelle l'éclairage va jouer un rôle évidemment majeur. Et en fait, chacune des parties a ses propres évidemment objectifs, et chacun a le même dossier. Et à partir du même dossier, on va avoir des éclairages qui vont pouvoir être différents évidemment entre l'accusation, les parties civiles, la défense. Et le rôle du président, c'est justement de permettre à chacune de ces paroles de s'exprimer, et qu'il en soit ensuite contradictoirement débattu. C'est ça le fond même de l'audience devant une cour criminelle.
Alors
on était présents à deux titres.
Alain Boulay.
D'abord, on connaissait des familles, c'est-à-dire que la PEV, on regroupe des familles dont un enfant a été assassiné ou a disparu, et régulièrement, on fait des réunions des familles pour échanger, pour entre elles, des groupes de parole, si vous voulez. Donc, on a été partie civile dans le procès Fourniret, c'était la première fois qu'on était partie civile, et on a assisté à tout le procès pour les aider à comprendre le sens du procès, pour les aider à supporter aussi tout ce qu'ils vont entendre. La logistique pour les victimes, on va dire, pas spécialement pour les protéger, mais pour les aider, a été extrêmement importante. D'abord, tous les matins, des bus passaient dans les hôtels pour prendre les victimes, n'avaient pas besoin de bouger. Ensuite, le bus arrivait et évitait complètement le devant du tribunal, là où il y avait tout le journaliste, toute la police, tout le monde, pour passer derrière, et on rentrait par une porte inaccessible par le reste du public. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que c'est également par ce genre d'endroit que le fourgon amenant Michel Fourniret et Monique Olivier arrivait. Mais ça choquait pas trop les victimes, parce que c'était décalé dans le temps. Ensuite, des locaux spéciaux avaient été mis à disposition des victimes. Alors, il y avait quand même beaucoup de monde, parce qu'il y avait toutes les familles des victimes, une dizaine de familles, il y avait tous les accompagnants comme nous, mais comme les associations également de Reims et de Charleville-Mézières, il y avait les avocats, il y avait des psychologues. Donc on avait prévu une salle très conviviale pour prendre un café, pour voir se reposer. Il y avait une salle qui était un petit peu plus, j'allais dire intime, où les gens avaient fait presque une sorte d'hôtel avec les photos des enfants et tout, qui était plus calfeutré, si vous voulez, qui était un peu sanctuarisé, hein, et les gens parlaient peu quand on rentrait dans cette salle, un peu comme si c'était véritablement sacré, et c'était vraiment à la mémoire des enfants.
Dans les procès de crimes en série, il y a une spécificité, c'est qu'il y a beaucoup de victimes, donc beaucoup de familles sur le banc. Et là, au procès Fourniret, la spécificité, c'est que ces familles étaient soudées, vraiment très très soudées. Ça leur a permis, je pense, d'encaisser beaucoup mieux l'horreur des dépositions. Et Fourniret n'a pas réussi ce qu'il avait cherché à faire, c'est-à-dire à les diviser. Moi, je les voyais comme un bloc, comme un pack, comme au rugby. Et les tentatives de Fourniret de semer la zizanie ont échoué.
C'était quelque chose d'exemplaire. Ça a montré qu'on pouvait avoir des procès d'exception. Parce que moi, j'ai vu d'autres procès après, ou d'autres procès presque en même temps, où les victimes disaient « Mais pourquoi nous, on ne fait rien pour nous ?» dans d'autres tribunaux. Et la réponse est simple. Un procès est bien suivi par la justice lorsque les médias sont présents. Si on ne médiatise pas, les victimes n'existent pas dans un procès. Hein, on n'essaye pas de les protéger. Hein. Donc là, beaucoup de choses ont été faites et c'est bien, mais je pense que s'il n'y avait pas eu journalistes, ça n'aurait jamais eu lieu.
Vers la fin là, du procès, dans son livre justement Frissons d'assises, hein, Stéphane Durand-Soufflant écrit « Le 25 mai, maître Pierre Blocot a été autorisé à plaider par son impossible client. Il livre une magnifique oraison aux victimes et un rappel, Michel Fourniret n'est pas un monstre, mais un homme qui a fait de sa vie un champ de ruines. » Pourquoi c'était nécessaire pour vous, maître Blocot, de rappeler justement cette humanité de votre client ?
Il appartient à notre espèce. On a voulu diaboliser Fourniret. Mais il n'en reste pas moins qu'il appartient à la collectivité des hommes.
Justement, vous prenez la parole, vous plaidez, et Stéphane Durand-Soufflant ajoute, l'accusé va d'ailleurs saccager la plaidoirie de Maître Blocot au moment où la parole lui est donnée en dernier. Au lieu de se taire, ce qui aurait soulagé tout le monde, il annonce des vers de mirliton de sa facture, réglant en alexandrin ses comptes avec l'avocat général, distribuant poussivement quelques bons points au président Latapie ou à tel avocat de la partie civile pathétique. Donc il saccage ce que vous venez de prononcer.
Ça n'a qu'un intérêt très limité, parce que dès l'ouverture du procès, on sait le sort qui attend Fourniret. Comme le disait avec le procureur général un jour, il dit ben, Fourniret, on le condamne et puis on le juge après. Et il était, dès le début, il n'y a aucun enjeu judiciaire à ce procès. Il n'y a aucun enjeu, tout le monde savait que c'était le maximum du maximum, dès le début. Et à la fin, ça c'est du Fourniret pur jus. il éprouve le besoin, parce que c'est la dernière fois que la parole lui est donnée. Après, il retombe dans l'oubli. Il rentre en prison, jusqu'à la fin de son existence. Et c'est la dernière fois.
Dans le tribunal de Charleville, la salle prévue pour le délibérer est une salle relativement exiguë, si vous voulez. Donc on a choisi de se réunir dans une caserne de CRS qui se trouve à quelques distances du tribunal. Et donc, une fois que l'accusé a pu s'exprimer pour la dernière fois, on a quitté la salle d'audience tous ensemble. Un quart nous attendait pour nous amener sur place. Et là, on a été dans un cadre de vie complètement autonome et coupé du monde. Donc on a passé, à peu de choses près, 24 heures dans ce lieu. Si vous voulez, le jury et le délibéré, c'est un groupe de travail qui ne peut se dissoudre que lorsqu'il a rempli sa mission. On n'a pas le droit au joker. On ne peut pas dire, ah ben non, cette affaire-là, on ne sait pas très bien comment faire, alors voyez quelqu'un d'autre. Voilà. Une fois qu'on est rentré dans la salle de délibéré, on ne peut pas en sortir avant d'avoir pris une décision.
Alors, Michel Fourniret, il a été condamné sur la base d'un article du Code pénal, c'est le article 221-3, je crois, qui permet d'assortir la peine de réclusion criminelle à perpétuité d'une véritable perpétuité. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de revenir sur ce prononcé de peine. Parce que les condamnations à perpétuité, ça veut dire, en fait... au maximum, ça veut dire 22 ans de peine de sûreté. Mais là, on ne peut pas, avec cet article-là, revenir sur la peine de sûreté, qui est une peine de sûreté perpétuelle. Monique Olivier a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 28 ans. Et elle risquait au maximum 30 ans. Donc elle a eu, une petite diminution de cette période de sûreté.
Il y a 2 ans, c'est le président qui a dit ça pour pas qu'elle fasse appel. Non, je plaisante. Mais il y a comme... Je pense ne pas être très loin de la vérité. Du président qui lui cherche la vérité avec patience ne sont pas toujours les intérêts de la défense, qui elle parfois n'a pas tout à fait intérêt à ce que la vérité éclate. Donc là, il peut y avoir dans des procès que je qualifierais de normaux avec des gens qui veulent être défendus, il y a des choses qu'on dit, surtout dites pas ça. Et le rôle du président, c'est d'amener cette recherche de la vérité, et d'un côté l'accusation, de l'autre la défense, et puis il y a l'équilibre à trouver entre les deux. Mais effectivement, il y a des moments où, et ça c'est la magie des assises, il y a des moments où ça se fissure.
On est confronté en permanence à cette démarche, à cette recherche, presque à cette quête même, on pourrait dire. On essaye de s'en approcher, alors des fois on y réussit un peu mieux, des fois on échoue lamentablement. Enfin, il faut avoir beaucoup d'humilité, encore une fois, parce que on est dans des instants de l'humanité, enfin on est dans l'humain, dans une audience de procès d'assises, on est dans l'humain et tout peut arriver, en fait. Quelqu'un qui ne voulait pas parler va tout d'un coup s'exprimer, ouais. Quelqu'un qui a parlé jusque-là va peut-être ne plus rien dire ou se taire, enfin...
On se pose toujours cette question des relations qui peut y avoir entre magistrats, avocats, familles des victimes, donc tous ces détenteurs d'informations, et les journalistes, ce qui se dit dans les interstices. Est-ce que ça, vous vous en servez comme matière aussi quand vous écrivez un papier, ou ça reste de l'ordre justement de la confidentialité?
Alors j'en use avec modération. Pour moi, c'est pas un matériau de... Moi, ce qu'on me dit hors audience, pas que ça m'intéresse pas, mais je ne l'utilise pas dans les articles, par principe. Même, je me disais toujours, si un jour je recueillais un aveu incroyable, je serais très embêté. Donc là, dans les suspensions, on parle aux avocats essentiellement. Les magistrats sont plus discrets. Alors, il se trouve que le président Latapy, lui, était un magistrat qui n'avait pas du tout peur de la presse et qui venait échanger quelques mots, enfin qui ne fuyait pas. Non, évidemment, il ne révélait aucun secret, il ne parlait pas d'audience, mais on pouvait parler avec lui. Après, c'est vrai que nous, souvent, on demande aux avocats des éclaircissements sur tel ou tel point. Pourquoi vous n'avez pas, par exemple, cuisiné plus ce témoin que ça? Ou au contraire, pourquoi vous êtes rentré dedans aussi violemment? Des choses comme ça. Mais les secrets de suspension sont pour moi des secrets absolus que je garde. Et d'ailleurs, les avocats le savent, ceux qui me connaissent, ils savent qu'ils peuvent me raconter. Mais encore une fois, ils me disent « mon client dit que c'est pas lui, mais c'est lui, mais tu le dis pas ». Je crois que je le dirais pas, ça me perturbe, ça n'arrive jamais, hein, mais ça serait extrêmement déstabilisant. Mais moi, c'est l'audience qui m'intéresse. De toute façon, ces confidences de suspension sont des parasites. Alors, on voit bien d'ailleurs aux suspensions, les camarades des radios et des télés, ils ont besoin de sons et d'images, donc les avocats rejouent des scènes, enfin, disent ce qui s'est passé. Là, il n'y a plus de contradictoire. À ce moment-là, c'est chacun son tour, ils disent ce qu'ils veulent. Et moi, je suis toujours extrêmement frappé de voir que ce qu'ils disent, c'est pas que c'est pas conforme à la vérité, mais enfin, c'est évidemment, n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu 5 minutes avant dans le prétoire, avec le contradictoire, avec un avocat général qui les reprend, ou une partie civile, enfin, selon celui qui parle. Et donc, moi, ça ne m'intéresse pas.
Le secret pour un avocat, c'est recevoir sous le sceau du secret et l'hypothèse absolue les confidences de son client. Le problème du secret est au cœur de la profession. Je considère d'ailleurs qu'il est constamment malmené, qu'il n'existe pratiquement plus, en grande partie à cause des médias ou à cause des avocats qui se confient beaucoup trop aux médias dans un but qui n'est pas uniquement pur. Un avocat gagne beaucoup à se taire en dehors des audiences.
Pour nous, on s'est rendu compte très très vite, vous savez, entre chroniqueurs judiciaires, comme dans toutes les corporations, on essaye de conjurer les choses un peu dures par des blagues qui doivent être à peu près aussi drôles que des blagues de médecins légistes. Et là, on s'est rendu compte tout de suite qu'on n'y arrivait pas. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à en rire, on n'arrivait pas à trouver des plaisanteries pour décompresser. Et il y a eu vraiment des moments où je me suis retrouvé dans des états que j'avais jamais connus auparavant et que j'ai jamais retrouvé après. Des états d'abattement total. Je me souviens d'une fois, par exemple, où je devais téléphoner à la rédaction pour demander quelle place j'avais pour le lendemain. Parce que le traditionnel coup de fil des 11h du matin, enfin, la suspension, j'appelle. Et là, c'était tellement horrible, je n'arrivais plus à parler. Ma gorge était nouée. Et donc, j'ai dû raccrocher. M'asseoir dans un coin, attendre que ça revienne, et pour téléphoner. On était quand même sidérés par la toxicité du personnage Fourniret et du couple.
Il faut faire très attention.
Daniel Zaguri.
Et là aussi, je pense que le procès de Fourniret a été une formidable illustration de la difficulté que nous avons à concevoir le mal dans sa banalité. Certaines victimes l'ont comparé à une sorte de monstre mythologique assoiffé du sang des vierges, et d'autres l'ont traité de ce qu'il est, c'est-à-dire d'un pauvre type, d'un raté de l'existence absolue. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et ne pas tomber dans ce que Karl Jaspers, le maître d'Anna Arendt, appelait la démonisation du mal. Il faut résister absolument à l'héroïsation et faire du criminel un monstre, c'est dans une certaine mesure le grandir. L'inhumain est humain, sinon nous ne pourrions pas juger ces hommes. Eux se vivent comme au-dessus de l'humanité commune, eux vivent leurs victimes comme en dessous de l'humanité commune. On ne sort pas de la condition humaine, et c'est pour ça que nous, psychiatres, nous devons restituer au plus près les mécanismes psychiques qui font qu'un homme arrive à commettre de tels actes.
Tous ceux qui ont suivi ce procès ont mis un temps fou à s'en remettre. Et je sais que, pour en avoir parlé avec eux, que les avocats ont été aussi extrêmement choqués. Maître Chemla, je me souviens du parti civil, a mis un temps fou à s'en remettre. Il y en a qui sont tombés malades. Ça nous a tellement secoués nerveusement qu'il y a eu des décompensations physiques. Mais c'est assez incroyable.
Et si je me laissais aller à la confidence, je vous dirais que pour moi aussi, c'est probablement été l'une des expertises les plus terribles que j'ai eu à faire. Et je me souviens aussi avoir fait des cauchemars après l'avoir examiné. Et je pense que les réactions dont vous parlez sont liées non seulement à l'horreur des actes qu'il a commis, mais à la légitimation, à la revendication, à l'explicitation par Michel Fourniret du sens de ces crimes.
En tant que chroniqueur judiciaire, j'ai vécu des moments extrêmement forts. Je continue à en vivre d'ailleurs. Des moments d'une puissance absolument inouïe, quoi. Des choses qu'on ne voit que là, que à la cour d'assises. Donc moi, mon boulot, c'est de les raconter. Et en les racontant, je les évacue. J'essaie de ne pas garder en moi tous les secrets. Ça me permet aussi, moi, de ne pas sombrer dans le désespoir total. Une fois que l'article est écrit, en général, ça va beaucoup mieux.
No one will admit they still exist. Efficient killers who work in silence, secrecy, darkness, unholy masters of terror, by magic.
Justice pénale, le sens du secret. Merci à Gilles Latapie, Pierre Bloco, Daniel Zaguri, Alain Boulet et Stéphane Durand-Soufflant. Documentation INA, Amélie Briand-Lejeune. Documentation musicale, Michael Simon. Prise de son, Frédéric Kérou. Mixage, Valérie Lavalard. Attachée de production, Christine Gage et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Catherine Escrive, réalisé par Asia Khalid pour Sur les Docs.